Le temps nous est compté puisqu'il nous reste 2 séances. Cela me contraint à presser le pas et à concentrer le propos au péril d'une certaine abstraction. J'en suis conscient et je vous prie de me pardonner. Je ne voulais pas rester sur le diagnostic d'une crise sans considérer son issue possible. Ce diagnostic se résume en une proposition: la décantation de la structuration autonome, caractère fondamental de la conjoncture présente, n'est pas l'autonomie. Elle nous en éloigne même, puisqu'elle débouche sous les traits de la société de la connaissance et de l'expansion du complexe juridico-technico-marchand sur un fonctionnement irréfléchi, immaîtrisé et au final suicidaire. L'impuissance politique, qui est l'expression politique de cette crise de la démocratie, a pour racine la méconnaissance que sécrète cette dynamique de la connaissance. Méconnaissance de ce qu'est en vérité le politique, de ce qu'est en vérité le droit, de ce qu'est en vérité l'histoire. Méconnaissance, autrement dit, de ce qu'est en vérité la structuration autonome. C'est le paradoxe de la situation actuelle. La décantation de la structuration autonome débouche spontanément sur sa propre occultation, sur l'ignorance à la fois des contraintes qu'elle nous crée et des possibilités qu'elle nous ouvre. C'est dire que cette configuration ne représente pas le dernier mot de l'histoire. Elle fait signe vers une suite. Nous avons à apprendre le maniement de la structuration autonome. Elle ne nous conduirait pas à l'autonomie véritable si elle fonctionnait toute seule. Ça, c'est l'illusion par excellence du moment. Chacun fait ce qu'il veut et les effets s'harmonisent automatiquement. Évidemment, c'est le contraire. Il n'y a pas plus difficile que la liberté qui suppose, qui réclame de la vouloir en pensant à la fois les moyens de la liberté et les conditions de son usage. L'autonomie ne peut pas être quelque chose qui nous est donné. C'est par essence quelque chose que l'on doit se donner. Nous avons le privilège immense d'être les premiers à disposer pleinement de ces instruments. La question est maintenant de savoir si nous serons en mesure de nous en servir. Ce sont les conditions et les formes que pourrait revêtir ce pas supplémentaire qui est devant nous que je voudrais interroger au cours de ces 2 dernières séances. J'examinerai aujourd'hui ce qui constitue l'obstacle principal sur le chemin, à savoir le problème de l'économie et de ce que nous appelons communément capitalisme. J'envisagerai la fois prochaine, pour terminer, ce que pourrait être la formule générale de l'autonomie véritable, la formule d'un fonctionnement autonome de la structuration autonome. le problème majeur de la modernité autonome depuis deux siècles a été et demeure l'explication avec la troisième dimension de la structuration autonome, l'orientation historique. Autrement dit, l'autoproduction intellectuelle et matérielle du monde humain social au travers de sa projection pratique dans l'avenir. L'étrange de la configuration actuelle est d'avoir d'un côté liquidé la façon dont le problème avait été posé dans la période antérieure comme question sociale avec le développement du mouvement ouvrier socialiste et de l'autre côté de porter le problème à son comble en renouvelant les termes sous le signe de la vague néolibérale des 40 dernières années. J'ai esquissé la dernière fois une présentation de la manière dont le problème s'est formulé dans l'enchaînement Rousseau-Hegel-Marx. Nous avons vu comment l'irruption et le déploiement de l'orientation historique ont été profondément déstabilisateurs pour la pensée classique de l'autonomie telle qu'elle accède à son expression rigoureuse chez Rousseau. Que devient la puissance collective de se donner sa propre loi quand se déploie par ailleurs une puissance pratique de se faire collectivement qui s'impose à cette loi et qui échappe à ses acteurs? C'est avec cette question que nous débattons toujours et c'est cette question que nous n'avons toujours pas trouvé le moyen de traiter. Ce que je voudrais montrer est que le préalable à son traitement est sinon l'abandon de la notion de capitalisme en laquelle la question tend à se concentrer, notion à de certains égards inévitable, du moins dans sa déconstruction méthodique, sauf de quoi son emploi incontrôlé nous mène dans une impasse. Qu'est-ce qui fait problème, donc, dans le déploiement de l'orientation historique par rapport à l'idéal d'autogouvernement? On pourrait dire de manière générale la contradiction entre les moyens et les fins. La finalité d'ensemble, on la connaît, même si elle est pensée confusément sous le nom de progrès, la constitution d'un monde commun meilleur, offrant à ses membres des conditions d'existence sans cesse améliorées, grâce à plus de raison dans les règles collectives, et grâce à une maîtrise rationnelle plus grande de l'environnement naturel. Or, en pratique, les moyens par lesquels passe ce travail de constitution échappe au contrôle de tous. Et pire, tendent à être détournés au profit de quelques-uns. Pour commencer, l'orientation historique entraîne un changement de structure de l'existence collective. Changement de structure que je propose d'appeler le renversement libéral. La dissociation de la société civile et de l'État et la priorité de la société par rapport à l'État. Priorité en tant que foyer du dynamisme historique. Ce qui donne le gouvernement représentatif. L'invention historique passe primordialement par l'initiative indépendante des individus, nouant librement des accords contractuels entre eux, et c'est ce qui fonde l'indépendance de la société civile. Dans un premier temps, cette indépendance reste suffisamment limitée et discrète pour ne pas soulever de questions majeures. Hegel, très significativement, puisqu'il est le premier à pointer, à nommer et à justifier cette indépendance, n'y voit pas de difficulté. Indépendance, mais sous la tutelle de l'État. Sauf que les dimensions de cette indépendance changent du tout au tout avec la révolution industrielle et l'entrée en grand dans l'univers de la production. L'univers du travail et des échanges. Non seulement la société civile construite autour de la propriété privée des moyens de production et de la liberté d'entreprise échappe à la tutelle de l'État, mais son dynamisme créateur de richesses apporte de tels moyens de puissance aux propriétaires qu'elles les mettent en position de dicter leurs lois à l'État. Dans ce contexte, la propriété est le levier de telles inégalités qu'elles reconstituent une sorte de nouvelle féodalité. Une féodalité industrielle et financière, mais bel et bien une appropriation privée du pouvoir politique, définition même de la féodalité correspondant à l'ancienne féodalité terrienne. À ce premier scandale de la confiscation du pouvoir commun par des puissants d'un nouveau genre, s'en ajoute un second, qui est la division de la société entre propriétaires et non-propriétaires, l'antagonisme des classes sociales. L'appropriation privée des moyens de production dans le cadre industriel éloigne définitivement la perspective utopique d'une république de petits propriétaires. Elle reconstitue un système de domination entre possédants et prolétaires sous la forme du rapport salarial, mettant ceux qui n'ont que leurs bras pour vivre, à la merci des employeurs, et ne laissant d'autres issues à ces prolétaires que la lutte sociale pour améliorer leurs conditions. Par où l'univers industriel ramène avec lui le spectre de la guerre civile. Que faire face à cette situation? C'est ici que va se nouer le grand débat entre réforme et révolution qui allait emplir le siècle à suivre. Réformer les aspects les plus choquants de ce système d'exploitation, le travail des enfants, simple type, corriger de manière générale les abus de position dominante autorisée par la propriété privée, les corriger grâce à l'intervention publique, grâce à la réaffirmation de la tutelle de l'État, de sa puissance arbitrale et de l'encadrement par la loi. Le parti de la réforme, donc, ou bien renversé par une nouvelle révolution, la révolution sociale prolétarienne venant après la révolution politique et juridique bourgeoise, ce système de domination et d'exploitation impossible à changer de l'intérieur. Le parti de la révolution. Une révolution destinée non pas à remettre l'État au poste de commandement, solution illusoire aux yeux des révolutionnaires, puisque dans ce système dominé par la propriété privée, l'État est aux mains et au service des possédants, mais une révolution destinée à abolir l'État. En même temps que la division entre la société civile et l'État, grâce à l'appropriation collective des moyens de production, qui rétablira l'unité de la collectivité en mettant fin simultanément à sa division en classes. Je n'ai pas besoin de développer davantage les termes de ce débat archi-connu. Je veux juste rappeler l'argument central de Marx en faveur de la thèse révolutionnaire, parce qu'il a joué un rôle déterminant dans la suite de l'histoire, mais aussi parce qu'il a introduit une dimension du problème qui reste avec nous, en donnant son nom au problème, le capital et le capitalisme. L'âme de la dynamique qui constitue le trait original de la société bourgeoise, explique Marx, c'est le mécanisme de la reproduction élargie du capital. C'est ce mécanisme qui tire en avant l'accroissement des forces productives. Or, dans le cadre des rapports de production bourgeois, ce mécanisme bute sur une limite qui rend son explosion inévitable. En deux mots, cette limite s'exprime en particulier par la baisse tendancielle du taux de profit, laquelle pousse en réaction à la concentration du capital, contraint par ailleurs de renforcer son exploitation. d'où paupérisation absolue du prolétariat, en face d'une classe possédante de plus en plus réduite et isolée. Combinaison de facteurs économiques, sociaux et politiques qui garantit l'issue révolutionnaire de cette contradiction insurmontable. Dans les faits, si nous revenons maintenant au cours réel de nos sociétés depuis deux siècles, force est de constater que c'est la tutelle de l'État qui a fonctionné comme correcteur de trajectoire, y compris et surtout là où il y a eu, comme en Russie, appropriation collective des moyens de production, laquelle n'a aucunement débouché sur l'abolition de cette tutelle étatique, comme prévu, mais a conduit à l'inverse à son renforcement. Dans les faits toujours, on a eu deux versions de la tutelle étatique. La version totalitaire d'une absorption de la société civile dans l'État, à l'enseigne du marxisme-léninisme, au nom d'une prétendue révolution socialiste, et la version libérale, réformiste, sociale, des démocraties dites bourgeoises, où le pilotage public et l'encadrement légal se sont efforcés de remédier aux maux bien répertoriés de la société dite capitaliste, de ces crises périodiques à l'insécurité salariale. Lénine d'un côté, Keynes et Beveridge de l'autre. C'est qu'il s'est produit fin 19e, début 20e siècle, un événement tout aussi imprévu que l'avait été la dissociation de la société civile à la charnière des 18e et 19e siècles, à savoir la recomposition de l'État sur de nouvelles bases. L'État légal rationnel, dans les termes weberiens, l'État de fonctionnaires et de services publics tel que nous le connaissons. Un événement très insuffisamment repéré et scruté, alors qu'il a été la clé du XXe siècle, pour le meilleur et pour le pire. Il a rendu possible les totalitarismes. Il n'y aurait pas eu de totalitarisme possible avec les États de 1880 encore. Il n'aurait pas eu les moyens d'une emprise totalitaire. Mais il a été aussi l'appareil qui a permis de corriger la société libérale de ses défauts les plus criants, en passant du libéralisme démocratisé, tel qu'on le trouve en déploiement dans les années 1880-1914, justement, à la démocratie libérale au sens plein du terme. Nous avons eu ainsi un moment hegélien renouvelé entre 1945 et 1975, un moment où, de fait, la pensée hegélienne a trouvé une consonance assez remarquable avec l'esprit du temps et l'espoir d'un pilotage rationnel du changement social qui paraissait en train de s'incarner. Nous en avons eu une incarnation éminente en France, en la personne d'Alexandre Kojève, jusque dans ses oscillations entre Staline et Jean Monnet. Où en fait, il ne savait pas très bien quel parti prendre. Et puis, le moment, ce moment s'est éclipsé. Et le tournant des années 1970 nous a sortis de ce rêve de l'accès de nos sociétés au pilotage rationnel en contestant la tutelle de l'État et en relançant un nouveau cycle libéral où nous sommes toujours. Ceux-là n'ont sans ranimer du même coup, comme il était prévisible, la critique de la société bourgeoise et du capitalisme. C'est le lieu d'introduire une observation importante à propos de cette révolution néolibérale et de ce qui l'apporte. Une dimension que, dans l'analyse que j'en ai proposée, je n'avais pas estimée à sa juste valeur. Cette révolution néolibérale comporte une dimension philosophique implicite, mais cruciale. Elle correspond à une mutation dans le concept de rationalité. La tutelle publique, telle qu'elle s'incarnait dans la technocratie régulatrice et planificatrice de l'après-1945, avait pour elle, en effet, l'argument de la rationalité. C'était sa légitimité fondamentale. L'évidence communément partagée était que la rationalité du fonctionnement collectif ne pouvait se concrétiser que dans un gouvernement de l'ensemble par des règles uniformes et une capacité de coordination des diverses activités. Ce qui, en regard, semblait condamner la société libérale et le capitalisme, c'était leur irrationalité. Ce que résumait la formule polémique qui a servi longtemps d'enseigne au mouvement ouvrier, le despotisme de l'atelier et l'anarchie des marchés. Autrement dit, l'arbitraire non rationnel des rapports de travail despotique et les fluctuations erratiques du cours de la production capitaliste et le gaspillage des ajustements marchands. La révolution néolibérale a consisté, dans le renversement de l'argument de rationalité en sa faveur. C'est la gestion publique qui en est venue à être taxée d'irrationalité foncière, intrinsèque. Il y a là, on peut l'accorder, un point de fait. Les exemples de dévoiement, de dysfonctionnement, d'effets pervers en tout genre associés à la gestion publique n'ont pas manqué. Et d'ailleurs, continuent de prospérer. L'irrationalité bureaucratique est devenue un article de foi qui ne demande même pas à être discuté. Mais le point engage bien davantage que ces constats empiriques, qui, du point de vue du fond, ne prouvent rien, sinon la défaillance des acteurs. Il est devenu un authentique point de droit, touchant à la manière dont la rationalité est susceptible de s'incarner dans la pratique sociale. La théorie économique a joué un rôle déterminant en l'affaire. Et c'est ce que j'aurais aimé avoir le temps de développer. Un rôle déterminant du théorème d'Arrow à la prétendue démonstration de l'efficience des marchés, en passant par la rationalité limitée de Simon et la théorie des anticipations rationnelles, il y a eu une confluence de thèses puissantes qui ont convergé pour accréditer consciemment un tournant qui s'est joué bien plus largement dans l'arrière-fond de l'esprit de nos sociétés, et dont les cheminements restent à clarifier. Ces cheminements sont directement à la racine de notre société de la connaissance et de la consécration des mécanismes de marché qui vont avec. Et réputé rationnel, pour résumer, un argumentaire bien plus complexe dans son déploiement, est réputé rationnel la coordination extrinsèque entre des acteurs individuels, hein, que ces acteurs soient des individus physiques ou des groupes, des entreprises. Hein, ça correspond à la point de fond de l'atomicité des marchés. Coordination extrinsèque par des mécanismes automatiques d'arbitrage fondés sur des calculs d'utilité, dont précisément seuls ces acteurs individuels peuvent être maîtres. Il n'y a pas de calcul d'utilité global. Où l'on retrouve derrière cette formulation générale la conjonction juridico-technico-marchande que nous avons décrite. Aussi bien d'ailleurs, cette captation de la rationalité collective explique-t-elle la faiblesse des oppositions au cours néolibéral, en dépit de la véhémence des protestations. L'opposition n'a plus à sa disposition la figure de l'État rationnel comme antidote au désordre libéral et levier d'une organisation alternative. Il faut bien mesurer le poids décisif de cette carence et l'ampleur des efforts qu'elle appelle si l'on veut la combler. Nous en sommes là. Il devrait être temps de tirer les leçons de fond de l'expérience ainsi accumulée sur tous les plans. Tâche indispensable, mais rendue difficile par le contexte où nous sommes. Ce contexte redonne en effet une sorte de crédibilité à la critique la plus traditionnelle du capitalisme en fonction de ses derniers développements. Ceux-ci se résument en deux mots: financiarisation, globalisation. Autrement dit, d'un côté, rôle accru du capital financier dans la vie économique et avantage démesuré du capital par rapport au travail qui se traduit en dynamique inégalitaire. De l'autre côté, institutionnalisation de fait du contournement des règles édictées dans les cadres nationaux qui étaient parvenus tant bien que mal à encadrer et à réguler les tensions liées au rapport salarial. Cela dans un moment où, par ailleurs, les solutions dites socialistes proposées à l'enseigne du marxisme-léninisme sont totalement disqualifiées et répudiées. Cela au moment où l'idée de révolution s'est vidée de sens, cela au moment où le mouvement ouvrier a disparu, où l'idée derrière de voir dans le prolétariat un agent privilégié de l'histoire n'est plus d'une plausibilité très grande, sans parler de l'effacement du prolétariat de substitution qu'a pu représenter un temps les peuples opprimés par le joug colonial. Cela donne cet anticapitalisme onirique dont la virulence dans la dénonciation n'a d'égal que l'absence de base intellectuelle et sociale, puisqu'il n'a plus ni théorie de l'histoire, ni perspective révolutionnaire, ni agent historique identifiable. En dépit de ces vents contraires qui paralysent la réflexion, il faut essayer d'avancer. Je crois que l'on peut parler de trois leçons fondamentales de l'expérience que nous avons faite au milieu de ces errements et tâtonnements diversement couronnés de succès. La première et décisive leçon à tirer de ce qu'il nous a été donné d'expérimenter, c'est qu'il n'y a aucune contradiction fatale qui promet le capitalisme à son dépassement. Que ce soit la contradiction entre le développement des forces productives et les rapports de production ou une autre. il est dans la nature du capitalisme de générer de grandes tensions, mais il est destiné à leur survivre. Et cela pour une raison cruciale, qui est que le capital n'est qu'un moyen. Il s'adapte aux circonstances, quoi qu'il arrive. Il y a des crises, mais aucune crise ne le fera périr. Il repart après la crise comme par devant. Il faut le démystifier. Et la démystification doit aller jusqu'à remettre en question la notion même de capitalisme. Elle correspond indiscutablement à une réalité du mécanisme de l'économie. Mais la notion de capitalisme égare lorsqu'elle conduit par extrapolation à prêter une cohérence à un système dont la domination du capital serait la clé de voûte, de telle sorte qu'un autre système économique, un autre mode de production, serait concevable où le capital ne tiendrait pas ce rôle. Repartons de la réalité élémentaire du mécanisme capitaliste. Il est en lui-même aussi vieux que la monnaie. À partir du moment où il existe une unité de compte abstraite permettant de stocker de la valeur, c'est la définition première du capital, hein. C'est un stock de valeur liquide. On peut... À partir de ce moment, apparaît, à l'opposé de la thésaurisation, qui est la forme première de la capitalisation, la possibilité d'un comportement d'investissement visant à l'accroissement du capital ainsi disponible. Vous êtes marchand, vous affrétez un ou des navires avec votre capital, vous supposez que leurs cargaisons vont rapporter davantage que votre mise initiale. Vous êtes riche, vous prêtez de l'argent à ceux qui en ont besoin. Ils vous le rendent avec un intérêt qui fait que vous êtes plus riche qu'au départ. Le capital, c'est-à-dire l'expression concrète de l'abstraction monétaire, et abstraction monétaire dont on ne voit pas comment on pourrait se passer, sujet en soi que je n'ai pas le temps d'envisager, le capital pousse à son propre accroissement, ce que la sagesse populaire connaît sous la forme de l'adage « il ne faut pas laisser l'argent dormir ». Le capital comporte un principe dynamique, potentiel. De là à en faire, à un certain stade de son accumulation dans le temps, le moteur de l'activité collective, il y a un pas impossible à franchir. Le capital ne prend pas le pouvoir de lui-même. Des capitalistes, au sens élémentaire du terme, il y en a eu à toutes les époques depuis qu'il y a de la monnaie. Il y en avait dans l'Athènes du 5e siècle. Ils ont fait parler d'eux. Il y en avait principalement sous forme de marchands. Des marchands plus ou moins grands. Et de banquiers associés, ils n'avaient pas forcément ce nom, mais ils jouaient le même rôle, associés à ce grand commerce. Mais l'activité de ces capitalistes aurait parfaitement pu rester dans les marges de l'organisation collective où en demeurait un rouage subordonné. Ce n'est pas d'eux-mêmes et en fonction de la dynamique interne du capital, comme Marx le suggère, que les capitalistes sont allés vers le pouvoir en construisant une organisation sociale adéquate à leur pouvoir. C'est la transformation de l'organisation collective qui les a catapultés au premier plan. Et très précisément, cette réorganisation de l'activité collective que représente l'avènement de l'orientation historique. La projection vers la production d'un avenir en progrès sur le présent, dont le capital va se trouver être l'un des adjuvants majeurs. C'est cette réorientation temporelle des activités collectives qui a consacré le mécanisme capitaliste en en faisant un moteur ordinaire de la vie sociale, en grand et en petit. Nous retrouvons ici, il vaut la peine de le marquer au passage, la thèse weberienne sur les origines du capitalisme. Nous la retrouvons non pas dans sa lettre, mais dans son noyau théorique. Peu importe que ce soit l'éthique calviniste et la doctrine de la prédestination qui ait été ou non déterminant en la circonstance. Ce qu'il faut garder de la thèse, qui me semble son acquis capital, c'est le cas de le dire, c'est l'idée que l'impulsion vers l'avènement du capitalisme ne pouvait être que culturelle et venir d'une orientation de l'existence dans le temps. Ici, chez Weber à la lettre, l'orientation vers le salut futur. La thèse intramondaine, qui l'a traduit parmi nous. Impulsion culturelle par rapport à un mécanisme qui existait déjà. Ça donne les discussions absurdes de Braudel avec Max Weber. Braudel parle de capitalistes, c'est indiscutable, c'est pas les mêmes, c'est tout. Impulsion culturelle par rapport à un mécanisme bien en place, mais qui de lui-même ne comportait pas le principe de sa systématisation. De ce point de vue, l'orientation historique fournit un cadre de compréhension bien plus large et bien plus puissant, me semble-t-il, que la réforme. Ce qui n'interdit pas de discuter des origines de ce cadre et de le faire remonter, si l'on veut, à la réforme. L'orientation historique n'a pas inventé le mécanisme capitaliste, mais elle lui a donné une importance démultipliée en mettant à la disposition des acteurs un mode de raisonnement pratique adapté à la poursuite de son horizon d'ensemble. La mobilisation des ressources du capital en vue de l'obtention d'un surcroît de ressources, sous les divers visages concrets que cela peut revêtir. Comme l'orientation historique sortait elle-même en grande partie du progrès des sciences et des techniques, la conjonction s'est faite d'elle-même en engendrant un capitalisme, cette fois industriel, où la production de biens et de services devient l'expression même, au lieu que ce soit le commerce, de ce mécanisme d'élargissement du capital par son investissement. Le mécanisme capitaliste est devenu ainsi l'un des moyens privilégiés du travail de production du monde humain social. Au risque permanent que le moyen tende à s'imposer comme une fin en soi. Au risque que l'impératif de rentabilité du capital conduise à sacrifier des activités utiles, mais insuffisamment rentables. Nous en avons la chronique quotidienne. Ou bien conduise à l'inverse, à privilégier des objets d'un intérêt très discutable, mais très rentable. Ou bien, encore au risque tout aussi permanent, que le but global qui donne son sens collectif à l'activité économique soit perdu de vue au profit de tel ou tel acteur du processus. Et en priorité, bien sûr, aux plus puissants d'entre eux, à savoir les détenteurs du capital. De là à conclure que ce que j'appelle un risque est en réalité la règle constitutive d'un système de commandement entièrement commandé par la logique de la reproduction élargie du capital, de là à conclure, en d'autres termes, que l'inversion des moyens en fin est systématique et organisatrice, ce qui serait la pleine justification de la notion de capitalisme, il y a un pas, et un pas qu'une analyse rigoureuse ne permet pas de franchir, à la lumière des développements de cette dynamique de la production et des échanges sur maintenant deux grands siècles. Le but collectif reste déterminant et organisateur au milieu de tensions de tous les instants. Mais ces tensions sont ce que nous découvrons être la propriété générale de l'organisation autonome. L'harmonie n'est pas son fort, contrairement à ce qu'elle aime se raconter. Le poids de la démocratie politique est décisif pour balancer cette propension à la captation privée de l'accroissement du capital. Et l'on ne peut plus sérieusement aujourd'hui réduire la politique démocratique à un instrument du capitalisme. On pourrait dire, polémiquement, le capitalisme, compris dans son concept rigoureux comme clé explicative d'ensemble de la nature et de la dynamique de nos sociétés n'existe pas, puisqu'il n'a inventé ni la science moderne, sans laquelle il ne serait pas ce qu'il est, ni la démocratie qui lui permet d'exister, avec la liberté privée des acteurs individuels, mais qui représente en même temps un contrepoids majeur à sa stricte dynamique endogène. Il y a de plus une sorte de ruse redistributrice à l'œuvre au sein même de cette dynamique de l'accumulation du capital. Une ruse qui a façonné le XXe siècle. Comme le fait a frappé tous les esprits, dès le début du XIXe siècle, la dynamique de ce secteur particulier de la production et des échanges est une dynamique de transformation de la vie collective dans son ensemble. On peut en conclure hâtivement qu'elle domine la vie collective dans son ensemble. Mais à y regarder de près, les choses sont autrement subtiles. Cette dynamique exige, pour se poursuivre dans de bonnes conditions, de gigantesques investissements en termes d'infrastructures. En fait, elle exige un remodelage complet de l'espace collectif, dont les réseaux de transport ou l'organisation urbaine sont l'expression la plus frappante. Elle appelle, autrement dit, une immense intervention publique dans laquelle vont une partie des ressources dégagées dans le secteur productif. De la même façon, au-delà de l'exploitation bestiale des premiers temps de la révolution industrielle, on en vient à découvrir, chez les économistes les plus bourgeoisement patentés, que l'accroissement de la productivité du travail est l'un des facteurs déterminants du rendement du capital. Productivité du travail dont l'éducation et la santé des populations sont des facteurs essentiels. Là encore, l'appropriation privée du capital exige comme sa contrepartie la mise à disposition publique d'une part conséquente de ses profits. Autre découverte qui va changer la face de nos sociétés, l'accroissement de la production ne peut aller sans un élargissement concomitant de la consommation. Et où trouver ces nouveaux consommateurs ailleurs que chez les travailleurs qui produisent les biens et les services en question ? C'est ce qu'on va appeler le fordisme, du nom du premier patron à avoir compris que pour écouler les automobiles qu'il produisait, il fallait permettre à ses ouvriers de les acheter. D'elle-même, l'augmentation de richesse produite par le circuit de la reproduction élargie du capital tend à se répartir entre sa propre poursuite, le développement d'un secteur public agissant sur la société en son entier et l'accroissement des ressources individuelles des acteurs salariés. Après, le réglage de cette répartition entre ces différentes parts et ne peut être que l'objet d'une âpre négociation qui ne s'arrête jamais. Autant de raisons qui conduisent à se demander s'il ne conviendrait pas de mettre à l'écart la notion confuse, fondamentalement confuse, de capitalisme qui confond un mécanisme avec le postulat de la domination de ce mécanisme supposé expliquer l'organisation de la société en son entier. Il serait probablement plus juste de parler tout simplement d'économie et de système économique. Même si l'on voit bien les raisons qui font que la centralité du mécanisme capitaliste tend à imposer la notion. Nous ne sommes pas prêts de clarifier les choses sur ce point. On peut essayer. Cela dit, la question demeure de savoir si cette fonction collective ne gagnerait pas à être remplie directement par la collectivité et administrée par elle, dans l'intérêt commun, sur la base de la souveraineté populaire, au lieu d'emprunter le détour de la propriété privée et de l'intérêt individuel. Ne serait-ce pas le moyen d'une gestion plus rationnelle, d'un emploi plus efficace, parce que plus pacifié, des ressources dégagées par le jeu conjoint du capital et du travail. Cette perspective de rationalisation de l'économie par le politique a dominé le XXe siècle européen sous divers noms. Elle a été l'âme de la dominance idéologique socialiste. J'insiste sur un point. Cette perspective n'a rien à voir en son fond avec ce qu'était la perspective révolutionnaire de Marx. De Marx lui-même. Pour Marx, la propriété collective signifiait ipso facto la fin de la séparation de la société civile et de l'État, par résorption de l'État dans la société civile, devenant la société tout court. Ce qui s'est développé avec Lénine, sous le nom du marxisme-léninisme, c'est un étatisme débouchant sur l'absorption totalitaire de la société civile dans l'État, ce qui n'a rien à voir avec la résorption de l'État dans la société civile prévue par Marx. Pour ce qui est du socialisme démocratique, l'étatisme y est assumé, sans aller jusqu'à la négation de l'indépendance de la société civile, mais en limitant celle-ci dans le domaine économique par le contrôle des grands moyens de production, les nationalisations et la tutelle publique sur la marche du système économique. Mais le plus important est la conviction commune qui unifie ces versions diverses et opposées du socialisme, la conviction que la marche de nos sociétés va vers une socialisation de l'économie, qui est en même temps une rationalisation du fonctionnement économique et social. Cette thèse est exprimée de façon exemplaire dans les années 1960 dans l'idée, partagée par des esprits éminents, d'une convergence des sociétés industrielles, qu'elles soient de type soviétique ou de type occidental. Dans tous les cas, on allait assister à une libéralisation du socialisme autoritaire à la soviétique, on allait assister à une socialisation plus grande des économies libérales occidentales, d'où le concept de société industrielle qui paraissait le point commun. Société industrielle tendant donc à une socialisation rationnelle. C'est cette conviction que le tournant des années 1970 a emporté et liquidé. Comment qu'on apprécie la réorientation néolibérale qui s'en est suivie, il faut prendre la mesure de la donnée centrale qui porte cette réorientation, à savoir l'autonomisation radicale de la société civile. La défaite idéologique et doctrinale du socialisme dans ses versions héritées du XIXe siècle s'est jouée sur la sous-estimation de la dissociation de la société civile et de l'État, de la dissociation du système économique à l'intérieur de la société civile, de la nature et la portée de ces dissociations. La lecture de Marx réduisant cette dissociation à la propriété privée est l'illustration caricaturale de cette sous-estimation. Il y avait évidemment infiniment plus dans la séparation de la société civile et dans la séparation de l'économie au sein de la société civile que les effets de la propriété privée. C'est la deuxième leçon que nous avons à tirer de notre expérience de deux siècles d'orientation historique et de détour économique. La dissociation de la société civile et de l'État n'est pas une donnée contingente, irrévocable, dictée par la domination capitaliste. Elle est une articulation structurelle, indissociable de l'orientation productive vers l'avenir, avec ce que celle-ci ouvre de marge de manœuvre légitime aux individus de droit en matière de travail, d'action, d'organisation. Ce pourquoi je propose de parler de fait libéral pour à la fois souligner la consistance de cette donnée de structure et pour la distinguer de sa lecture idéologique dans les termes du libéralisme ou du néolibéralisme. La dominance idéologique du néolibéralisme n'aura qu'un temps. Elle passera, si elle n'est déjà en train de passer, mais le fait libéral, lui, demeurera. et il est possible de proposer une toute autre lecture des conséquences à en tirer et de la manière de l'aménager. Nous retrouvons ici une application d'une propriété générale de la structuration autonome que nous avons déjà croisée dans le domaine politique. La structuration religieuse fonctionnait à l'unité. La structuration autonome fonctionne à la séparation ou à la division. Séparation ou division qui sont la condition de la relation entre les termes ainsi disjoints. Relation qui permet la réflexion. Non pas la réflexion des individus, mais une réflexivité structurelle à l'intérieur de laquelle vient se loger la réflexion des individus dans le cadre d'un processus collectif. Les conséquences à tirer de cette décantation du fait libéral sont considérables. Nous ne reviendrons pas vers la gestion publique de l'économie. Ce n'est pas le rôle de l'État. Et d'ailleurs, il l'exerce mal, pour des raisons qui demeurent à être bien établies. On a encore une fois une foule de constats, mais ils ne suffisent pas. La raison fondamentale de la liberté de la société civile, qui exclut la gestion publique de l'économie, est son inventivité. La création historique est le fait de l'initiative des acteurs, sous des formes les plus diverses, qu'il s'agisse de création artistique ou de création économique ou technologique ou scientifique. La création historique est le fait de la capacité d'innovation qui n'appartient qu'aux acteurs individuels et qui ne peut appartenir, pour des raisons qu'il faudrait pouvoir plus longuement détailler, à la gestion publique. Ce à quoi nous assistons clairement, d'ailleurs, c'est au désengagement des appareils publics de la gestion de la vie économique. Cela n'enlève nullement son rôle à la puissance publique. Ce rôle se situe du côté de la réflexion, telle que je viens de la définir. Son désengagement de la gestion directe ne signifie pas qu'il n'a rien à faire, sinon laisser faire. Il lui revient de définir le cadre collectif à l'intérieur de laquelle cette libre activité s'insère. Cadre collectif qui est ce qui donne son sens à cette activité. Par elle-même, cette invention historique qui est le fait des acteurs indépendants est incomplète, hors de ce travail de réflexion à l'échelle collective et politique, qui permet son appropriation comme un bien commun. mondialisation aidant, d'ailleurs, nous sommes en train d'assister à une espèce d'extériorisation, objectivation de l'économie par rapport à la vie des sociétés. Mais loin d'entraîner un affaiblissement irrévocable des États-nations comme l'apathie démissionnaire des sociétés européennes peut le laisser croire, cela va vouloir dire un renforcement du rôle des États-nations pour se situer stratégiquement vis-à-vis de cette extériorité, pour en contrôler l'impact et pour en aménager les conséquences. Comme d'ailleurs, tout le monde autour de nous l'a compris, à l'opposé des malheureux Européens englués dans leur gouvernance nombriliste. De manière générale, la socialisation de l'économie, qui demeure un objectif parfaitement défendable, n'est pas à chercher en amont du côté de la saisie des leviers de commande supposés permettre de replacer l'économie sous une direction politique, mais en aval, du côté du travail de réflexion collective pour définir le cadre et les conditions dans lesquelles s'exerce cette activité. Des conditions que, dans tous les cas, l'activité économique ne définit pas. C'est un point qui devrait être bien davantage développé. Elle cherche éventuellement à en exploiter les ressources au maximum, s'extrayant par exemple des coûts afférents, d'où un rapport de force inévitable. Il n'y aura pas de réincorporation de l'économie dans une unité collective, soit politique, soit sociale. L'économie est destinée à former un système à part, organisé autour du double mécanisme qui vérifie l'efficacité rationnelle des entreprises, des acteurs. Le mécanisme de la rentabilité du capital, que la comptabilité est là pour établir, et le mécanisme d'ajustement des offres et des demandes. En revanche, s'il y a un système économique, c'est pour ce motif que l'abstraction monétaire permet de boucler relativement ce système sur lui-même, autour de la règle d'efficacité. En revanche, en ce qui concerne la détermination du cadre dans lequel fonctionne ce système, tout est à repenser. Très précisément, du rôle de la monnaie, qui est à de certains égards le problème clé derrière les crises que nous vivons, aux règles comptables qui permettent justement l'appréciation de l'efficacité, des droits de propriété et de leurs limites, au statut des entreprises, le chantier est gigantesque en pratique, et nous n'en sommes qu'au balbutiement. Nous avons voulu une transformation générale, l'heure est venue de s'intéresser aux aménagements de détail. Et c'est là qu'est la clé de nos problèmes. Car ces détails, chacun le sait, sont là où se loge le diable. C'est sur ce terrain-là que la réintégration de l'économie dans un fonctionnement collectif mieux conscient est envisageable. De ce point de vue, juste un mot là où il en faudrait bien davantage, remarquons que le défi écologique représente une chance, parce qu'il oblige, ou devrait obliger, là encore, aucune nécessité n'est à l'œuvre, il oblige à penser en même temps la nature propre de l'orientation historique et sa dynamique d'artificialisation et ses limites. Il est une troisième leçon de l'expérience que nous avons pu faire en matière d'orientation historique, sur laquelle je vais devoir passer très vite. Elle regarde le salariat. Il soulève une question essentielle du point de vue de l'action collective et de la nature du lien de société, de la socialité humaine, dans ce qu'elle a de plus spécifique. Il est vrai, le salariat a cessé de constituer une cause brûlante. Et la charte d'Amiens, fondatrice du syndicalisme français, n'est plus tellement dans les esprits. L'abolition du salariat était son objet central. Aujourd'hui, on ne peut pas dire que ce soit la cause prioritaire, alors encore une fois, que ce fut l'une des revendications motrices du mouvement ouvrier. Les voies de l'apaisement de ce problème jadis aigu sont d'ailleurs très intéressantes à considérer, mais je n'ai pas le temps d'y entrer. La question du salariat, sur le fond, est celle de l'instrumentalisation humaine, de l'utilisation d'un homme par un autre. Historiquement, cette instrumentalisation se manifeste au sein de la structuration hétéronome par les liens de domination et de hiérarchie. Il y a des supérieurs qui commandent aux inférieurs et qui les emploient à leur propre but. Rapport dont l'esclavage est la figure limite, la réduction d'un autre homme à un outil. Dans le salariat moderne, cette utilisation prend la forme d'un achat de travail entre des personnes théoriquement libres et égales. Un détenteur de capitaux prend l'initiative de lancer une entreprise, il fait appel à des gens auxquels il demande de mettre leur travail seulement, par leur personne, au service des fins qui sont les siennes. Très simple sur le papier, juridiquement impeccable. En pratique, c'est l'exercice d'un rapport de force. Ceux qui louent leurs bras n'ont pas le choix, ils sont soumis aux questions du patron, aux conditions du patron, qui, sous couvert d'un échange contractuel, instaure un rapport d'exploitation et de domination. En sous-payant le travail qui lui est fourni par rapport aux bénéfices qu'il lui en retire, et en imposant despotiquement sa volonté à ses subordonnés. Sans parler du fait qu'à la séparation du travailleur des moyens de production qui fondent cette exploitation et cette domination s'ajoute l'aliénation, dans le langage marxien, la séparation du producteur du fruit de son travail. D'où, en regard, le projet d'une société désaliénée par l'abolition du salariat. Une société d'échange entre libres producteurs associés où n'existeraient plus que des rapports de coopération au sein d'une coexistence d'individus indépendants. Il faut pousser l'hypothèse jusqu'au bout pour mesurer ce qu'elle a d'irréel. La société humaine est par essence autre chose. En tant que société qui a du pouvoir sur elle-même, qui est capable d'agir sur elle-même, elle est une société où il y a des rapports de pouvoir, d'autorité, de commandement, par lesquels la volonté d'un individu met d'autres individus au service de buts qu'il définit et que ses subordonnés ont à servir. C'est la ligne de partage de la société humaine en tant que société d'action qui suppose une organisation par rapport aux sociétés d'animaux. Il y a des mâles dominants, bien connus, dans les sociétés animales, mais il n'y a pas cette organisation en vue d'une action collective passant par le lien de subordination et d'autorité. Toute la question pour les sociétés modernes est de concilier cette donnée constitutive qui, encore une fois, fonde la possibilité d'une action collective avec leurs principes de droit. L'égale liberté des individus. Ce qui, de nouveau, ne peut aller sans tension. C'est justement ce qui s'est passé, et il faudrait pouvoir détailler le cheminement, à propos du salariat, qui a cessé de faire figure de scandale, moyennant l'aménagement de ses conditions légales, la protection du salarié, et qui est devenu la forme normale du rapport de travail. En tant que contribution individuelle à une œuvre collective. Cette règle générale implique, et ne peut qu'impliquer dans les conditions modernes, où nous ne sommes plus dans un univers de petits artisans ou de petits propriétaires, cette œuvre collective implique la séparation des moyens de production, ou des moyens d'administration, comme le remarquait déjà Max Weber. Sur fond d'une relative dépersonnalisation de ces moyens ou de production ou d'administration. Cette œuvre collective se déploie dans le cadre d'organisations fonctionnellement hiérarchisées où le commandement est accepté parce qu'il n'est pas le fait d'une domination personnelle, mais parce qu'il s'exerce par représentation au nom d'une finalité collective. Je crois qu'on peut voir dans cette pacification, généralisation du rapport salarial, sur lequel, encore une fois, il y aurait beaucoup plus à dire, nous pouvons y voir l'amorce d'une pénétration diffuse du sens de l'orientation historique dans les esprits. Car c'est dans cette voie que nous pouvons attendre un pas supplémentaire. La vérité est que nous ne savons pas ce que nous poursuivons au travers de l'économie, d'où la l'impression très répandue de l'absurdité du travail dans nos sociétés. Si son objet et son enjeu étaient plus clairs dans l'esprit commun de nos sociétés, comme autoproduction du monde humain social, comme dimension de l'autonomie, beaucoup de difficultés sur lesquelles nous luttons au quotidien deviendraient plus abordables, à commencer par les limites de l'économie. Pour résumer l'esprit de la démarche proposée, il faut dédiaboliser le capitalisme pour le dominer. L'entretien de cette démonologie dénonciatrice nous aliène à une fiction. En entretenant la figure d'un ennemi imaginaire avec lequel on est en pratique toujours conduit à pactiser, d'où la relance du débat entre les traîtres et les purs, qui n'en finit jamais, cette imaginaire nous désarme en nous empêchant de comprendre ce que nous faisons. Encore une fois, je ne dirai pas le capitalisme n'existe pas, car il y a quelque chose qui justifie la notion. Mais la notion est à déconstruire pour apprécier exactement ce qu'elle recouvre et les limites de sa pertinence, de manière à en faire un usage mesuré. Mieux vaut parler à coup sûr d'économie, en remarquant que toute économie est capitaliste. Je veux dire, toute économie constituée au sens moderne comme un système conscient de ses finalités proprement économiques passe par le mécanisme capitaliste. Et on l'a vu ô combien avec les États dits socialistes, qui n'étaient évidemment qu'une variante de capitalisme d'État. Mieux vaut parler d'économie pour nommer ce nœud des activités collectives qui se constituent en un système au nom de nos sociétés en fonction de l'orientation historique. Nous pouvons très raisonnablement tenir qu'il n'y aura pas d'abolition du capitalisme, d'abolition des classes, d'abolition de l'État, d'abolition des nations. Mais nous pouvons apprendre à en faire un meilleur usage si nous sommes capables de comprendre à quoi ils servent. Là est la question principale de l'heure. Établir clairement pourquoi il y a de l'économie. C'est le premier moyen d'en relativiser l'emprise. Nous n'avons fait jusqu'à présent que subir l'organisation profonde qui nous permet d'être ce que nous sommes. Mais cette organisation a la puissance de nous permettre de comprendre ce que nous sommes et, à partir de là, d'apprendre l'usage de ces moyens qui font ce que nous sommes. Sur le terrain de l'économie, je crois que c'est le lieu privilégié pour apprendre ce maniement de ce qui nous a jusqu'à présent déterminé, que ce soit au titre de l'hétéronomie ou au titre de la structuration autonome. C'est ce que nous essaierons de développer plus complètement dans une formulation plus complète à propos de ce que pourrait vouloir dire démocratie, dans un sens bien entendu, pour notre dernière séance la prochaine fois.
Vous parlez de réflexion, collective. Est-ce que quel est l'agent, quel peut être, voyez-vous, dans le monde que nous connaissons, l'agent de cette réflexion collective dans un monde où il y a des mécanismes extrêmement puissants, et je pense que c'est le sentiment, la liberté du futur et le développement des chaînes de production dans le monde. Comment peut agir? Est-ce que l'État national peut être un de ces agents, ou si ça n'est pas l'État national, de ses forces, notamment le capitaux, quels peuvent être ces agents capables de mutiliser ces forces et de conduire cette réflexion collective dont vous parlez?
L'agent, c'est la collectivité. C'est pas une composante particulière des collectivités. Ce sont les collectivités. Prenez l'exemple que vous donnez de la liberté de circulation des capitaux. Mais cette liberté, elle a été décidée. Elle n'est pas une force physique naturelle qui s'applique d'elle-même comme la météorologie. Il y a eu un choix collectif, il y a eu une réflexion étayée sur des bases tout à fait repérables. Ce n'est pas une décision de la nature, c'est une décision politique qui a été adoptée et qui est parfaitement révocable. Il y a des tas de pays de part. Votre réflexion me paraît absolument typique de l'eurocentrisme d'aujourd'hui, qui présente comme une nécessité naturelle ce qui a été fait comme des choix collectifs. Si vous pensez que les Chinois voient la liberté de circulation des capitaux comme une donnée naturelle des systèmes économiques, ne le croyez pas. Et pas plus les Américains. C'est une propriété des Européens. Ça n'est pas un fait naturel. Nous avons choisi. C'est collectivement, nous avons choisi, en réfléchissant pas beaucoup aux conséquences. Mais oui, nous avons choisi.
Sur le plan historique, c'est le contrôle des territoires qui est la période, qui est la parenthèse. Si
eh bien, mais...
Entre 1914, il y a contrôle des territoires entre 1914 et 1980-86, selon ce qu'il dit, mais pour le reste, la liberté de circulation des capitaux était la règle. Mais, jusqu'en 1914, mais, jusqu'à la guerre de 14,
à l'intérieur, mais non. À l'intérieur, mais non, elle n'était pas du tout la règle. À l'intérieur de l'ère occidentale.
Même pas entièrement.
C'était très limité. Il y a une série de pays entre lesquels régnait cette liberté de circulation.
Les Européens investissaient en Argentine.
Mais vous pensez que les Argentins n'avaient pas leur mot à dire sur ces investissements? Là, vous vous trompez totalement. C'est une image complètement trompeuse. En effet, il y avait une zone de libre circulation, mais c'était une zone bien circonscrite. Et elle, aujourd'hui, elle est moins grande que jamais, en réalité. Il y a un encadrement très rigoureux, sauf en Europe. Là est le problème. Là est notre problème.
Moi, je suis tout à fait votre raisonnement par rapport à la notion de travail. Vous connaissez aussi certainement les travaux de Castel là-dessus, sur le travail. Je pense que votre piste de réflexion est très profitable. Vous mettez ça du côté de l'organisation, des rapports hiérarchiques, de subordination sur lesquels il faut travailler, enfin, réfléchir. Mais il me semble que vous mettez de côté, mais peut-être que c'est parce que vous n'avez pas le temps la question quand même de la propriété. Par exemple, la notion de la sphère de la propriété sociale, la notion de protection attachée au travail, qui a été définie, si vous connaissez cette notion de propriété sociale qui était donnée aux travailleurs par rapport à ceux qui n'avaient pas de patrimoine. Alors, cette notion de propriété sociale aujourd'hui liée au travail est en train de se dissoudre. Enfin, elle est très très menacée. Et la question aussi de l'organisation contractuelle du travail est également tout à fait en question dans beaucoup de secteurs, y compris des secteurs de fonction publique. Augmentation du nombre de contractuels, etc., etc. Comment, premièrement. Deuxièmement, comment on peut imaginer travailler cette question du salariat, donc parler d'autre chose, pour qu'il redevienne un travail, effectivement, c'est ça qu'on entend dans ce que vous dites, un vrai travail, au sens de Hannah Arendt, par exemple. Et comment peut-on imaginer qu'il y a une possibilité pour l'être humain de réfléchir entre être et avoir? Parce que moi, il me semble que au fond de ce que vous dites, si on travaille à transformer le salariat en travail, on ne peut pas ne pas mettre en question qu'est-ce qu'on est et qu'est-ce qu'on a en travaillant. Et la notion de propriété, vous voyez, consécutive à cette affaire, me semble difficile de l'évacuer comme ça. Voilà. C'est un peu confus ce que je dis, mais...
Surtout, vous parlez de beaucoup de choses à la fois, donc je n'ai pas la prétention d'avoir traité, parce qu'encore une fois, ce que j'essayais, mais justement, je veux dire, je ne vais répondre qu'à ça. Je pense que la notion de propriété sociale a été une notion très malheureuse, parce qu'elle procède d'une inspiration en elle-même juste, c'est-à-dire l'idée de propriété fonction sociale. Justement, c'est un début de réinscription de ce que permet la propriété dans une entreprise de transformation collective. Le propriétaire est certes propriétaire, mais étant donné que ce qu'il fait a un impact collectif, propriété privée est en un sens une notion absurde, bien entendu, puisque le fait de posséder concerne ceux qui ne possèdent pas aussi, et a fortiori dans un cadre capitaliste ou industriel où tous les effets de la propriété induits concernent la société tout entière très vite. Bon. Donc, l'idée de propriété fonction sociale en elle-même très pertinente parce qu'elle permet de définir autrement la propriété comme un système de droit par définition limitée, en introduisant, par exemple, dans la notion de propriété, nécessairement les effets de la propriété, qui sont des effets collectifs, qui peuvent des externalités négatives, comme des poètes, par exemple, mais il n'y a pas que ça. Mais vouloir donner de la propriété à ceux qui n'en sont pas, c'est un argument très faible, parce qu'on ne peut pas l'évaluer. Voilà. C'est-à-dire que si on pose le problème dans ces termes, on est in fine perdant, sauf rapport de force très favorable. C'est une très mauvaise notion opérationnellement parlant, et c'est pour ça qu'en effet, aujourd'hui, elle est, parce qu'elle est très facile à combattre, et, ou à étouffer en réalité, parce que c'est comme ça que ça se passe. Voilà. Donc il faut imaginer d'autres voies.
Oui, quitte à vous fâcher, je reviens sur la première question. Parce que dominer le capitalisme par les États-nations, il me semble que ça signifie remettre en cause, pour une part, la mondialisation.
Mais pas du tout. Non, non, mais ça, c'est la bêtise numéro un. C'est pas la peine d'insister. C'est l'absurdité qu'on lit dans les journaux tous les jours à laquelle, écoutez, c'est la bêtise actuelle des Européens. C'est faux. La mondialisation est faite par les États-nations à leur profit. Mais c'est une sorte de... Comment peut-on ne pas voir cette vérité élémentaire?
Alors, prenons-le d'une autre façon. Les acteurs les plus intelligents aujourd'hui qui pensent à l'avenir, qui ne sont pas pris par le présentiste comme les États nationaux ou comme nos deux opinions, comme vous l'avez très bien décrit. Ce sont les grands groupes internationaux, les Google, etc., qui imposent à la fois leurs projets techniques et leurs lois. Bon. Par conséquent, par rapport à ces forces qui ont un côté très positif, extrêmement dangereuse. Bon. Mais nous nous trouvons en effet devant un système que nous avons créé nous-mêmes. Mais le retour en arrière, il n'est pas symétrique. C'est-à-dire, quelques pays voudraient dire nous mettons en dehors de ce système en remettant des règles, il y aurait la réciprocité, ce serait une situation complètement... Donc, en effet, le retour en arrière, la remise en cause de règles qui ont été en effet voulues et acceptées avec une certaine nécessité, n'est pas un phénomène où on peut revenir comme cela. Parce qu'entre-temps, le rapport de force est changé. Et bien évidemment, on pourrait penser à une régulation à l'échelle mondiale, mais nous savons bien que... Alors, il faut refaire des partenariats, peut-être qu'avec la Chine, il y arrivera, d'ailleurs, mais on est tout de même là devant, parce que la vérité, c'est que nos États-nations sont dans le présentisme et que la capacité de réflexion, elle est pas là en ce moment, voilà.
Elle n'est pas là en ce moment, mais ça ne veut pas dire qu'elle n'existe pas. C'est deux choses différentes. le fait est évident, nous sommes bien d'accord, mais elle est mobilisable. Elle est mobilisable, ne serait-ce qu'en fonction des conséquences. Or, quand, oui, il y a des formules très dangereuses. Quand vous dites de grands groupes, hein, en l'occurrence, c'est tout ce qui tourne autour de l'Internet, le GAFA, là, Google, Apple, etc. Tout simplement, ils n'imposent rien. Ce qui se passe, qui est précisément le phénomène auquel nous devons nous confronter, c'est le fait que il propose une innovation face à laquelle il n'y a aucune régulation préétablie. Et ça, c'est une donnée permanente de la vie économique. Il y a eu, au travers de la technologie numérique dans ses différents versants, une innovation à laquelle personne ne s'attendait, qui s'est imposée parce que personne ne l'attendait dans les conditions où elle s'est faite. C'est... Autrement dit, on arrive toujours après. Si on prétend dire personne ne pouvait prédire l'invention et le développement d'un système comme le système numérique à l'avance. Maintenant, nous sommes dans la digestion des conséquences. Et on voit très bien que ça commence. Alors, c'est très confus. La Commission européenne elle-même, qui n'est pas un organe qui brille par son dynamisme en général, a découvert qu'il y avait potentiellement un abus de position dominante de la part de Google. D'une manière générale, il y a quelques bons esprits pour avoir non seulement défini la question de la souveraineté numérique, mais pour en avoir détaillé les applications très concrètes. Voilà le genre de sujet sur lesquels la réflexion collective pourrait se réveiller. Ça ne veut pas dire qu'on va empêcher les gens d'accéder à un moteur de recherche comme Google, mais ça veut dire, par exemple, vous avez des questions très concrètes. Un tel moteur de recherche signifie que l'emploi mondial des données concernant les personnes et leurs activités est très diverse. Et in fine, localisé sur le sol américain et relève, s'agissant des litiges auxquels elles peuvent donner lieu, du tribunal de San José, en Californie. Ça pose un sérieux problème de souveraineté, car dans ces données, il y en a qui touchent à des choses tout à fait importantes pour la vie d'un pays. Voilà. Donc, après coup, on voit bien que on ne peut pas empêcher ce genre d'innovation. D'ailleurs, ça n'a pas de sens de les empêcher parce qu'elles sont évidemment bénéfiques. Il n'empêche que la gestion des conséquences ne peut être que l'effet d'un travail d'après coup qui reconfigurera profondément, j'en suis convaincu, la gestion de ces systèmes à l'échelle mondiale. Alors, avec des initiatives plus ou moins chaotiques qui seront prises par les uns, par les autres. Après, ça pose en effet des questions permanentes de coordination internationale. Mais le problème de la souveraineté numérique est aujourd'hui posé. Il est en train d'émerger. Il pourrait émerger plus vite, il pourrait faire l'objet de dispositions plus rapides, mais ça ne, rien d'impossible, il n'y a rien d'impossible qui l'empêche. Car le rapport de force est beaucoup moins évidemment en défaveur des États, contrairement à ce qu'on raconte couramment, que on pourrait croire. Ils ont de très puissants arguments à leur disposition. Il faudrait qu'ils s'en rappellent. Ça, c'est le problème, justement.
Quels arguments?
Moi, je comprends que votre résultat où vous arrivez est compréhensible dans le sens de ramener tout le monde vers l'être néolibéral ou la société néolibérale. Mais je vois que c'est très réduit, c'est la question, pas pragmatique, mais théorique, de la question de Marx. C'est la question de l'accumulation, de la valeur et de la question de l'État. Et c'est là où il y a une faiblesse dans l'organisme. Parce que vous prenez de chez Marx quelque chose qui va pour justifier votre analyse, pas le tout. Je ne crois pas, moi, que le non-dépassement de la société, du système économique, réside dans autre chose que la non-possibilité pour ceux qui pensaient le dépasser. Et le fait qu'ils n'ont pas trouvé une solution pour le dépasser ne donne pas raison au système économique existant,
mais,
comme il est.
Mais quel est le rapport? Je ne parle pas de ça. La question, je ne dis pas l'échec des solutions antérieurement essayées donne tort à Marx. Je dis l'analyse de Marx est intrinsèquement fausse. Ce n'est pas pareil. C'est un problème. Bon, vous avez le droit de penser le contraire. Non, mais écoutez, le choix historique, aujourd'hui, il est entre défendre la pensée marxiste, dont on me dit toujours, oui, mais il y a, en fait, Marx, c'est vrai ce que vous dites, mais il a dit autre chose, il y a un vrai Marx. Je connais ça depuis que j'ai 15 ans. J'attends toujours la révélation de ce vrai Marx qui aurait la réponse à tout. Le choix qui nous est ouvert, c'est ou faire rester fidèle à Marx et il ne se passera rien, c'est un choix tout à fait légitime, ou sortir de Marx et essayer de faire quelque chose. Voilà. Ça, voilà, c'est le choix d'orientation.
Mais tomber dans ce que vous appelez la loge de Odiane. C'est ça, faire rentrer dans les détails des gestionnaires d'un système qui...
Mais encore une fois, la question, c'est est-ce que nous avons des moyens d'action sur ce système? C'est la seule question. La vérité de Marx ne donne aucune prise sur la réalité, et moins que jamais, sur la réalité de ce système. Voilà, point. Alors, on peut, à l'infini, dire, mais si, il n'y a que ça de vrai, si on veut.
L'essence de la logique de Marx par rapport à cette relation entre l'État et les sociétés civiles, je me demandais si Marx n'était pas un partisan de l'école autrichienne avant l'heure, au moins précurseur, parce que...
L'école autrichienne sort de l'étude très, très approfondie de Marx, hein, il n'y a aucun problème là-dessus.
Parce que,
c'est un point bien documenté.
Et là, on voit c'est assez drôle, ironique, les occupants partis par Wall Street, qui trouvent un terrain commun avec ceux qui veulent enlever ou miner un certain rôle de l'État, parce que l'argumentation, partis par Wall Street veut s'entendre avec Wall Street, mais les libertaires des États-Unis disent au contraire, il faut d'abord miner l'État, parce que c'est l'État qui fournit par Wall Street les moyens de s'enrichir. Et en plus, c'est la réserve fédérale qui crée la monnaie, qui mine la société, Donc, les partisans, là, c'est, on a les deux extrêmes qui se joignent, parce que la puissance, les libertaires veulent attaquer d'abord l'État, Wall Street, pour au moins pour s'en prendre au capital financier. Les autres rôles de l'État pour protéger les salariés, l'environnement, les consommateurs, ils sont prêts à accepter, à condition que ce ne soit pas trop lourd non plus, parce que ça mine aussi l'autonomie, l'innovativité des vrais capitalismes qui libèrent toutes ces forces vives, toutes ces forces inventives de chaque individu. Et c'est intéressant à savoir qu'aux États-Unis, ces idées sont plutôt l'apanage des jeunes américains qui sont tentés par cette orientation libertaire, aussi parce que ça touche aussi un certain libertarisme social et culturel qui laisse à l'individu agir.
Ben, en cela, d'ailleurs, les États-Unis restent une avant-garde culturelle dans le monde, parce que c'est le mouvement qu'on observe aussi bien dans les sociétés européennes, avec un peu de retard. En effet, l'anarchisme est, me semble, en train de, sous la forme capitalisme, anarcho-capitalisme, une carrière tout à fait remarquable sur le plan de la séduction et l'idéal de la jeunesse.
Il y a une différence entre une entreprise capitaliste et une entreprise publique. L'entreprise capitaliste a un seul but, faire du profit. Tandis qu'une entreprise publique a d'autres buts. Par exemple, on ne peut pas considérer, par exemple, les entreprises soviétiques n'avaient pas pour premier but de faire du profit. La RATP n'a pas pour premier but de faire du profit, de même que la SNCF.
C'est un vieux débat dont les termes. La question, écoutez, c'est pas la peine, on connaît l'argumentaire par cœur. Donc, c'est pas la peine. La question pratique, c'est qui apprécie ces finalités que n'a pas l'entreprise capitaliste, que l'entreprise publique. Qui les apprécie, qui les définit et qui en juge sur le terrain? C'est là où l'exemple que vous avez pris des entreprises soviétiques pourrait être assez approfondi. Mais on ne peut pas parler dans l'abstrait. Là, justement, ce dont j'essaye, si vous voulez, de faire un petit progrès à la réflexion collective, c'est en sortant de ces argumentaires a priori. Sur le papier, la finalité des entreprises publiques est, en effet, et comment condamner cette idée? Mais d'ailleurs, toute entreprise, en fait, par l'impact qu'elle a sur l'environnement collectif, a d'autres finalités que de faire du profit. Si les entreprises qui s'en tiennent strictement à faire du profit, d'ailleurs, elles l'ont en gros compris, c'est ce qu'on appelle la responsabilité sociale des entreprises. Bon, ça donne des choses tout à fait discutables, mais l'idée est là. Toute entreprise, par le fait qu'elle a un impact collectif, a d'autres finalités que le profit. Mais qui juge de ces finalités en pratique? Parce que en pratique, ça donne que la finalité première des entreprises publiques, n'est-ce pas, c'est de produire des salariés publics. Comme la formule des entreprises soviétiques, vous savez, a été donnée elle est célèbre, cette histoire, mais elle est toujours très révélatrice, par un directeur d'une grande usine soviétique était toujours présenté aux directeurs, aux occidentaux qui venaient visiter les merveilles de la planification, et qui dit tout à trac à ses visiteurs, notre usine est la plus productive du monde. Ce qui ne paraissait pas évident à voir les cadences pas très infernales qui régnaient. Et il dit, et on lui demande, je ne comprends pas bien, il dit, oui, nous sommes l'usine qui produit le moins de tracteurs avec le plus d'ouvriers. Ben oui, ça peut être ça. Donc, si vous voulez, là, ça, encore une fois, ces arguments sont totalement périmés. Il faut arrêter de discuter là-dessus pour parler concrètement des choses qui jugent des finalités. Voilà.
Bien, alors je viens d'acheter un bouquin qui dit à quoi servent les économistes s'ils disent tous la même chose.
Sauf celui qui a écrit le livre.
Non, il y a 7 ou 8 auteurs qui ont signé Manifeste pour une économie pluraliste.
Oui, non mais ça, pourquoi pas? Non mais, en plus, vous savez très bien, si vous m'avez écouté, que je ne suis pas un admirateur inconditionnel des économistes de l'école orthodoxe. C'est pas sur ce terrain-là qu'on peut vraiment progresser.